Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons mode et création sur le continent africain avec notre partenaire de toujours, le magazine Brune. Bonjour Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous les voisins et les voisines.
Et on va poser une question de circonstance. Qu'est-ce qui a changé depuis la pandémie dans notre dress code ? Le télétravail et ses tenues très relâchées, les restaurants ou les bars fermés ou un peu désertés, le port du masque aussi qui refroidit les fashion victimes, sans parler du vélo devenu un mode de transport urbain dans certaines villes, comme à Paris. Tout ça nous mène à la question, talons et cravates vont-ils disparaître au bureau et pas que ? Qu'en est-il des habits de fête aussi ? Est-ce qu'ils vont céder au jean basket ou c'est l'inverse ? Est-ce qu'ils vont être supplantés par le jean basket ? Bref, la crise sanitaire va-t-elle nous dicter durablement une autre façon de nous habiller ? On en discute aussi avec vous, Marine Houssou. Bonjour Marine.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé votre société au démarrage de la pandémie.
Exactement.
C'était pas de chance, mais vous avez su rebondir.
C'est
conseil
ça.
En images.
Oui.
Et ça s'appelle Je suis sublime.
Je suis sublime,
voilà.
Exactement.
Et ben, ça donne confiance en soi, c'est déjà pas mal.
Oui.
Et on est aussi en ligne avec le créateur ivoirien Gilles Touré. Bonjour Gilles.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Et quant à vous, les voisins et les voisines, vous pouvez envoyer vos messages si vous ne vous habillez plus tout à fait de la même façon sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41 ou au contraire si rien n'a changé dans vos habitudes vestimentaires. Et puis en fin d'émission, le monde des enfants. Désormais, vous savez qu'on entend régulièrement chez 7 milliards de voisins la parole des enfants sur leur vision du monde. Aujourd'hui, ils nous parlent de leurs conflits et de l'honneur. C'est tout un programme.
7 milliards de voisins.
On est enfants.
C'est l'attitude qui gagne.
Marie-Jeanne Serbin-Thomas, Marine Houssou, Gilles Touré. Marie-Jeanne, peut-être déjà un retour en arrière dans l'histoire de la mode. On a eu les guerres, on a eu les crises qui ont affecté un peu beaucoup la création, la façon de s'habiller des femmes aussi, et ce que créaient les créateurs, les stylistes.
Tout à fait. Alors, il faut voir que tous les conflits internationaux ou même nationaux qui se sont passés, par exemple, en Occident, ont eu des répercussions sociales, mais aussi esthétiques très importantes. Quand vous prenez la Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale, les femmes portaient des robes longues avec des corsets assez serrés, donc des petites vestes vraiment très, très cintrées. Et en fait, après la Première Guerre mondiale, sont apparus les premiers pantalons pour femmes. Ça veut dire que les femmes aussi ont commencé à travailler comme infirmières dans l'armée. Il y a eu aussi toute cette industrialisation, si vous voulez, de l'économie qui s'est passée. Donc, on avait besoin...
Et les hommes qui étaient au champ de bataille.
Et les hommes qui étaient au champ de bataille. Donc, il fallait donc non seulement supplanter, si vous voulez, cette absence de main-d'œuvre masculine, mais également à travailler au champ, avoir différentes activités. La Deuxième Guerre mondiale, ça a été exactement la même chose. On est passé du long au court, et les femmes portaient des jupes, par exemple, ce qu'on appelle midi, entre le genou et la cheville. Elles ont porté aussi des vestes qui étaient un petit peu inspirées du vêtement militaire. Elles se sont habillées avec du tweed, avec des tissus, qui étaient des tissus de l'armée, qui étaient récupérés de l'armée. Et un des grands scandales qu'il y a eu après la Deuxième Guerre mondiale, c'était Christian Dior, qui, pour, si vous voulez, célébrer la libération, a lancé une robe qui était faite avec 7 mètres de tissu en période où les gens étaient en restriction.
Oui, on avait encore les tickets de rationnement pour s'alimenter.
Il y avait encore les tickets de rationnement. Donc ça a été un très très gros scandale. Mais cette mode, en fait, ce qu'on appelle la robe corolle avec énormément de tissu, qu'on perdure toujours. Donc à chaque mouvement, si vous voulez, qui a eu comme ça de fracture dans la société importante, il y a eu des répercussions sur les vêtements.
Oui.
Et par exemple, en Afrique, pendant les guerres de libération dans les années 60, notamment au Congo, alors les femmes portaient toujours, parce qu'il y a eu des femmes qui ont fait le maquis, par exemple au Congo, Brazzaville, et au lieu de porter donc leurs 3 pagnes habituellement, elles en portaient 2, mais surtout elles portaient des pagnes avec l'effigie, soit de motifs maoïstes ou marxistes, puisque à l'époque c'était le marxisme-léninisme. Donc en fait, il y avait le pagne qui venait complètement être, l'emblème donc du dirigeant de l'époque, avec des mots sur la révolution. Donc il y avait et puis au niveau des coiffures aussi, on essayait d'avoir des coiffures plus pratiques. Donc, et il faut voir aussi que là, par exemple, la période de la post-deuxième guerre mondiale, c'est l'invention du prêt-à-porter. Mmh. Hein, donc, on ne fait plus de couture parce qu'on est passé dans une mécanisation de l'industrie. Donc, c'est vraiment l'invention du prêt-à-porter à ce moment-là.
Alors là, on vient de vivre un phénomène planétaire, hein, la pandémie qui a bouleversé nos habitudes quotidiennes, qui a bouleversé l'économie mondiale. Marine Housseau, vous avez lancé votre agence en pleine pandémie, une agence de relooking. Hein. Alors, d'une certaine manière, ou vous n'aimez pas qu'on dise ça ?
Non, j'aime pas le terme relooking parce que c'est vrai que je suis plus portée sur le coaching, le conseil en image, sur une dimension beaucoup plus profonde sur l'estime, la confiance en soi, l'amour et l'acceptation de soi. Oui. C'est très important et on l'a vu justement pendant cette période que beaucoup de personnes, des études le révèlent, une étude américaine révèle que 50% des Américains se sont sentis justement très mal dans leur peau. Mmh. Voir leur reflet dans le miroir justement après cette pandémie, ça a été très compliqué pour eux. Donc on sent qu'effectivement il y a eu un besoin de quand même prendre soin de soi pendant cette pandémie.
Et alors aujourd'hui, il y a le retour au travail pour une partie des personnes. Oui. Comment on fait pour s'adresser aux femmes sur un sujet qui est en même temps relativement secondaire?
Oui, c'est vrai qu'on pense que le vêtement, enfin, on voit le vêtement comme quelque chose d'assez superficiel. Pourtant, c'est très important de pouvoir se sentir bien dans ses vêtements parce que ça a un impact sur l'image que l'on peut avoir auprès des autres, surtout au travail. Donc, pour moi, c'est vrai que cette pandémie a changé un petit peu la manière dont on allait s'habiller. Les femmes veulent être plus à l'aise. Donc, le casual chic, je dirais que c'est vraiment la tendance qui est actuelle. On va chercher à être dans des vêtements, des matières comme le coton, le jersey. On veut être à l'aise, en fait, véritablement. Mais je pense que la femme, précisément, veut quand même rester assez féminine, malgré le changement qu'il y a pu avoir avec cette pandémie.
C'est ça, il y a une ambivalence, hein, une attente de confort et un retour avec quand même une forme de coquetterie, d'esthétisme. Oui. Gilles Touré, vous, en tant que créateur ivoirien, comment vous avez vécu la crise à Abidjan pour votre clientèle aussi à l'extérieur, est-ce que le plus dur est passé maintenant pour vous en tant que créateur? Est-ce que vous allez pouvoir revenir à l'exubérance?
Ça a été très difficile parce qu'il faut dire que la femme ivoirienne, la femme africaine est une femme qui adore s'habiller, qui est très coquette. Et du coup, on s'est trouvé comme ça du jour au lendemain à ne plus faire de vêtements. Il y a eu la crise, il fallait travailler, les gens ne sortaient plus. On fait quoi? Elle était tellement coquette, cette femme-là, que tout s'est reporté dans le masque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelques temps, en pleine période là, de crise, tous les créateurs se sont transformés en fabricants de masques. Donc on faisait des masques de toutes les sortes, on faisait des masques dans du wax, on faisait des masques, on avait tellement envie de créer, la femme avait tellement envie d'être belle, malgré le télétravail, parce qu'il y avait quand même l'image. Donc la créativité était reportée sur le masque. Des masques en wax, des masques avec des strass, des faillets, des proucrous, tout ça. Et ça a duré 4-5 mois. Mais aujourd'hui, les choses reprennent. La pandémie n'est pas complètement terminée, mais bon, elle est moins forte qu'il y a quelques mois. Les gens ressortent. Les gens ont envie de s'habiller. Et ça a changé, pas sur un long terme, ça a changé sur juste le temps des 4-5 mois. Et puis là, aujourd'hui, la femme se rhabille, on ressort normalement.
Oui, la femme se rhabille, effectivement, à l'échelle ivoirienne, hein, où de toute façon, on est quand même resté beaucoup au top du top, hein, par rapport à d'autres villes, notamment à l'Europe.
Oui, c'est ce que je disais, c'est... On a envie, on se dit, de toute façon, on a perdu du temps. Il y a eu tellement de morts aussi après. Est-ce qu'il nous reste encore beaucoup de temps à vivre? Est-ce que les gens revivent, hein, à Abidjan, en Europe, à Paris, je ne sais pas trop comment c'est, ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais ici, les gens revivent, ils réapprennent à vivre. Des créateurs, beaucoup de créateurs ont émergé donc après cette période-là. Je pense qu'ils avaient plein d'idées qu'ils ont gardées pendant 4-5 mois. Et puis aujourd'hui, il y a un grand boom. Le wax se reprend, les défilés reprennent, les soirées reprennent, les gens sortent. De plus en plus de robes de soirée naissent.
Marie-Jeanne Serbin-Thomas, on parlait de cette envie de vêtements confortables qui est arrivée après le confinement, les mauvaises habitudes du jogging, du vêtement d'intérieur. Comment ça se conjugue aujourd'hui avec le retour au bureau ?
Alors, il y a deux choses. L'homme est oublieux, il a envie de passer à une autre étape. Et puis en même temps, on a pris conscience que parfois, ce que l'on faisait, ce que l'on portait, n'était absolument pas adapté à une vie normale. Par exemple, porter des stilettos, des talons très hauts, porter des talons très échancrés, des bottes très serrées, des jupes très étroites. Tout ça, en fait, ça participait à une envie de se conformer à une image dictée par certains médias, mais ça ne correspondait pas véritablement à la réalité. Aujourd'hui, quand vous voyez les défilés, par exemple, de la Fashion Week qui ont lieu à Paris, c'est très intéressant de voir des robes du soir avec des tennis. Mmh. Et ça, ça va être la grosse tendance. Là, dans le dernier Brut, nous avons fait, si vous voulez, le nouveau chic. Le nouveau chic, c'est de dire, en fait, on a envie d'être bien et d'être belle. Ce n'est plus antinomique.
Des robes très élégantes avec des tennis.
Oui, mais, voilà, mais c'est vraiment une des grosses tendances. Et puis, par exemple, au niveau du maquillage, on allège, mais ce rouge à lèvres qui nous a tellement manqué pendant des mois à cause des masques, ben, on s'en tartine vraiment toute la journée. Donc, on a envie
de... Marine a mis son plus beau rouge à lèvres.
Voilà, oui. Donc, vraiment, c'est la tendance. Et en Afrique, de plus en plus, on voit, par exemple, dans des photos de mode, des séries de mode, avec des tenues en wax, avec une inspiration occidentale, et c'est tennis. Et ça ne fait absolument pas quelque chose de moche, ça ne fait pas du tout quelque chose... Ça donne une dynamique au vêtement. Un vêtement un peu apprêté, ça lui donne une dynamique.
Et cette tendance, elle était déjà installée, elle préfigurait déjà de pas mal d'envie, vous le disiez, parce que d'abord, bon, les baskets,
envie de confort.
Les baskets aux États-Unis, on peut être habillé très élégamment
bien
avec des baskets.
Oui,
aujourd'hui,
sûr.
On voit ça sur des plateaux de télévision en Europe de manière très, très commune, mais parce que ça faisait déjà un certain nombre d'années que les villes, y compris en Europe, c'est devenu compliqué, il faut marcher plus, les transports
en commun,
la vie quotidienne est plus difficile, hein, on passe pas son temps dans sa voiture. Et donc, les stilettos, comme vous dites, les talons, c'est plus compliqué. Et en Afrique, dans les capitales africaines, où
on
là
ne
aussi,
marche pas.
Ça fait long, on ne marche pas, il n'y a pas de trottoir. Mm-hmm. Donc là aussi, c'est pas simple.
Oui,
on marche moins, nous dit Gilles Touret.
On marche moins, mais de toute façon, quand vous regardez, c'est vrai que tous ces tennis-là, pour rebondir sur ce que Marie-Jeanne disait, ça reste des baskets assez chic quand même.
Hein. Oui.
Toutes les marques qui sont mises, donc ça va être des baskets beaucoup plus colorées, ça sera plus du blanc et du noir, ça sera des baskets beaucoup plus colorées, ça va être des baskets avec des strass, ça va être des baskets avec du métal, ça va être des baskets avec, ça sera des baskets habillées. Donc, l'idée de rester chic reste. Voilà, c'est pas vraiment la basket pour aller faire de la gym. Quoi.
Mais vous, est-ce que Gilles Touret, par exemple, vous vous êtes inspiré de l'incroyable percée des vêtements de sport qui était déjà amorcée avant la pandémie, hein, sous l'impulsion de rappeurs notamment, d'influenceuses, etc. Est-ce que ces vêtements dans des matières un peu molles comme ça, qui épousent le corps, qui permettent de bouger, est-ce que ça vous a inspiré, vous, pas tant que cela? Vous êtes resté dans votre exubérance traditionnelle?
Alors si, quand même, parce qu'il faut dire que ces matières-là qui sont lycra un peu, sont beaucoup plus faciles à réaliser, sont beaucoup plus faciles à porter, on est beaucoup plus à l'aise dedans, et même pour nous, ça demande moins de temps d'essayage, parce que c'est la matière étire, donc une dame par exemple qui fait un 44-45 peut porter une tenue de 42, parce que ça tire, voilà. Et les gens, ils sont beaucoup plus pratiques. On est passé, moi par exemple, je suis passé des tenues très habillées, très sort, tout ça, Marie-Jeanne parlait tout à l'heure de robe de soir, mais on n'en fait plus pratiquement, on est plus aujourd'hui vers une tendance de prêt-à-porter moyen de gamme. Voilà. La femme, elle est beaucoup plus dynamique aujourd'hui. Elle a envie de s'habiller, mais il faut qu'elle soit confort. Elle a envie de s'habiller, mais il faut qu'elle puisse aller travailler. Donc, on est vraiment passé de la robe de grand soir, qu'on ne met plus, à vraiment une tenue chic pour aller travailler. Et même quand on a des cocktails, on s'habille sport, enfin, avec une petite touche de sport. Ouais. Voilà.
C'est plutôt le week-end qui vous inspire, finalement.
Le week-end, oui. Ou même le travail, je dis, pour aller travailler, on peut mettre un jean avec une touche de paille dessus, on peut mettre un jean en extensible. Tous les jeans aujourd'hui sont lycra. Vous avez remarqué, toutes les matières de jeans aujourd'hui sont lycra. Donc c'est beaucoup plus confort pour marcher, pour monter dans sa voiture.
C'est sûr que là-dessus, on ne reviendra plus en arrière. Hein.
Non.
Écoutez cette voisine à Abidjan, puisqu'on se pose la question, hein, talons, cravates vont-ils disparaître? Qu'est-ce que la pandémie a changé dans nos façons de nous habiller? La ville, en tout cas, on l'aime élégante encore sur le continent africain. Et écoutez cette voisine, Covid, on ne te dit pas merci. En gros, c'est ce qu'elle nous raconte.
Bonjour les voisines et les voisins, moi c'est Jeannette Oudou de la Côte d'Ivoire. Effectivement, Covid a tout bouleversé dans nos habitudes vestimentaires. Moi, je parlerai plutôt de masques qui, en plus d'être un moyen de prévention et de protection contre le Covid, dissimulent la beauté du visage. On est obligé de cacher la beauté du visage dans un masque. Moi qui adorais tant me maquiller, je ne le fais plus car salissant pour mon masque et désormais je ne vois plus l'importance du maquillage en ces temps de Covid. Merci.
Voilà. Alors, le masque a tout bouleversé ou pas tant que cela finalement ?
Il a changé les habitudes en fait. C'est-à-dire qu'on se maquille moins, mais on met du mascara parce qu'en fait les yeux étaient la seule chose que l'on pouvait voir entre guillemets. Donc tout ce qui était maquillage des yeux a continué. Au contraire, ça s'est sophistiqué. Par exemple, le travail des sourcils est devenu véritablement un marché extraordinaire. On se fait les sourcils tous les jours. Il faut avoir les sourcils broussailleux à la Kim Kardashian. Ouais. Regardez Marine.
Ce travail des sourcils, il avait déjà commencé. À pointer
le bout de son nez. Il avait commencé, mais là, même les femmes qui ne le faisaient pas, l'ont fait aussi. Sourcils, mascara, c'était très, très, très important parce que c'était une façon aussi d'exister. Hein. Sinon, en fait, notre visage était caché à 70%, 75%.
Marine Rousseau, alors qu'est-ce que vous conseillez, vous, à vos clientes, pour certaines qui sont chefs d'entreprise,
oui, bien sûr,
pour reprendre confiance en elles?
Moi, c'est vrai que je pense que, comme on disait tout à l'heure, il y a un peu cette ambivalence sur le fait qu'on veut rester dans le confort. Mais je pense qu'il y a, aussi cette importance de se dire « j'ai envie de m'habiller ». J'ai envie de retourner et de me sentir belle, en fait, de prendre confiance en moi, de mettre une belle veste, un beau pantalon, mettre mes talons s'il le faut, quitte à prendre mes baskets et après changer pour mettre mes escarpins, mais le faire. Et je pense que, enfin, moi, quand je conseille mes coachés, c'est vraiment d'y aller, de foncer, de mettre de la couleur pour justement casser la morosité quotidienne qu'on a pu vivre pendant cette pandémie. Donc, c'est vraiment aller à... Voilà. Foncer et puis ne pas regarder à ce qu'on a pu vivre et à ces nouvelles peut-être choses qui ont pu apparaître sur le côté confort. Oui, mais je veux toujours rester belle, j'ai envie de sortir, j'ai envie de mettre ma robe, j'ai envie d'être invitée et de voilà et de retrouver peut-être cette vie entre guillemets que je pouvais un petit peu avoir avant.
Oui, mais on n'ira pas jusqu'à la provocation au sortir de la Deuxième Guerre mondiale avec Christian Dior, qui crée avec des mètres et des mètres de tissu.
Alors, détrompez-vous, Emmanuel. Les collections printemps-été 2022, dont les présentations ont eu lieu la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, en fait, c'est l'exubérance, c'est la couleur, c'est les talons, c'est plein de tissus, c'est ce qu'on veut, mais c'est la vie qui revient, c'est la vie qui bouillonne. Avec donc des apports, je vous dis tennis, robe longue ou alors des crop
tops. Tout est possible.
Tout est possible, mais en fait, c'est vraiment une explosion de lumière, de couleurs fortes. Le rose dans ses tons les plus doux, mais aussi les plus mièvres, mais aussi les plus forts, les plus shocking reviennent complètement. Les verts, enfin, on fait des mélanges pas possibles. Et même pour cet hiver en Occident, il faut oser le bleu pâle, il faut oser le rose. Même
en plein hiver.
Ah oui, en plein hiver. Il faut le total
look
rose.
C'est la couleur des masques, finalement.
Voilà.
Donc, les masques chirurgicaux, bleu pâle.
Il faut oser... Alors, c'est un certain bleu, quand même. C'est pas un bleu pâle, c'est un bleu...
Celui-là, on n'en veut plus, celui-là.
Non, on veut un bleu layette soutenu. C'est pas la même chose. Donc, non, en fait, vraiment, cet hiver, il y a beaucoup de tons beige, la vie revient, on veut vraiment revivre. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans toutes les collections qui sont passées et qui vont nous influencer d'une manière ou d'une autre.
Vous restez avec nous, Marie-Jeanne Serbin-Thomas, Marine Houssou, conseiller en images, Gilles Touré, créateur ivoirien. Est-ce que vraiment le contenu de notre vestiaire a évolué depuis la pandémie? En tout cas, il y a des aspirations, parfois paradoxales, de la part des femmes, du confort, de l'exubérance, tout est possible. Mais il y a aussi le réchauffement climatique, qui est un sujet omniprésent, et la révolution de cette mode dite durable. La Fashion Week de Dakar en décembre prochain se présente sous le signe éco-responsable. On en discute.
Soul me now, soul me, yeah. Learn how to cope before how to talk. Soul me, yeah. Soul me now.
Step by step,
step by step, one by one. Show me how you do, not to let the next one. Show me how you do.
One step at a time, that's the way to go. No need to rush, you gotta let it flow. Girl, our spirit is combining, you know, so the love will grow. Take my hand and feel the breeze. Listen to the music from the trees. It will make you feel at ease, yeah.
We're gonna make it, I'd call for a soul.
Bone. I was made in love, need your body and soul. Need your body and soul. Need your body and soul. Here I come again in the flesh and bone. I was made in love, need your body and soul. Need your body and soul.
Un mariage improbable entre un Basque et un Jamaïcain pour notre plus grand plaisir musical chez 7 milliards de voisins sur RFI. David Carroll qui invite Rick Jam, étoile montante du reggae en Jamaïque, et ça donne Hardcore. Et on est chez 7 milliards parce qu'on s'interroge sur la façon de nous habiller depuis la pandémie. Il y a quand même du relâchement. Et d'ailleurs, il y a des gens qui se sont tellement habitués finalement au télétravail. On en parlait tout à l'heure avec vous, Marie-Jeanne Serbin-Thomas, rédactrice en chef du magazine Brune, Marine Houssou, conseil en images, Je suis sublime, et puis Gilles Touré, le créateur ivoirien qui est en ligne avec nous. Certains se disent, oh là là, demain je vais au bureau, mais comment je vais m'habiller ? Parfois, tout d'un coup, il y a une espèce de vide comme ça, vertigineux. On ne sait plus comment...
Exactement. Exactement, et c'est vrai que moi du coup, j'ai eu cette idée-là quand je me suis lancée avec Je suis sublime pendant le Covid, et j'ai développé une méthode que j'ai nommée le dressing virtuel.
Ah.
Pourquoi ? Parce que justement, il y a cette question qu'on dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre demain ? Et on ne sait jamais, pourtant on a plein de vêtements dans notre dressing. Et l'idée en fait, c'était déjà d'apprendre à trier ses vêtements, d'apprendre à trier avec la connaissance de savoir quel est mon style, quelle est ma morphologie et quelle est ma colorimétrie pour éviter d'acheter des choses qui ne me conviennent pas et donc de surconsommer. Et du coup, c'est ce que j'apprenais justement à ma communauté sur les réseaux sociaux. Et ensuite, je leur apprenais comment justement créer ce dressing virtuel pour avoir une vision claire de ce que je possède et avoir aussi des looks déjà faits pour gagner du temps le matin et aussi en fonction de mes différentes activités, que ce soit le travail, le lifestyle ou encore certains événements.
Alors, un look déjà fait qui pourrait fonctionner aussi bien à Paris et à Abidjan, ça serait quoi pour vous, Marine Houssou ?
C'est ce look un petit peu casual chic qui va mêler peut-être en Afrique le côté wax et peut-être avec un jog pant et puis des petites baskets.
Ouais, voilà. Un jog pant,
c'est le mélange entre le jogging et le pantalon. Donc, ça va être un sporty chic et on est à l'aise tout en restant un petit peu chic aussi, avec un petit bomber, avec du wax et puis des baskets.
Ouais. Oui, Gilles Touré, ouais, ça ne marche pas partout.
Non, ça marche forcément, oui, parce qu'on s'est rendu compte justement après ce Covid là que toutes les femmes aujourd'hui sont en salle de sport. Elles ont envie de jouer sur leur silhouette. Donc tous ces pantalons, comme elle dit, là, qui sont très près du corps comme ça, c'est parfait. Et le wax est vraiment une petite touche, quoi. C'est pas vraiment le gros pagne que nous allons porter. Ça va être une casquette, ça va être une cravate, ça va être un bomber, ça va même être un bracelet ou un foulard. Le foulard revient très fort. On parlait tout à l'heure de maquillage. Les gens, ils n'ont plus le temps de se maquiller, mais ils vont jouer sur le regard. Beaucoup de couleurs de lentilles et puis des foulards et des coiffures.
Ouais, mais tout de même, alors certes les matières stretch permettent des vêtements très près du corps tout en restant très confortables, mais en même temps, on le remarque, Marie-Jeanne Serbin-Thomas, les pantalons s'élargissent énormément. Là, on va être dans du ample dans les mois à venir.
Alors il y a les deux tendances. Ce que je déteste, c'est-à-dire le cycliste revient un petit peu. relancée
pourquoi
à la mode.
Vous n'aimez pas le cycliste,
non, parce que en fait, il faut une morphologie pour c'est porter ça. Le cycliste et qu'on ne l'a pas, mieux vaut éviter, quoi. Donc, parce que si vous voulez, le confort amène autre chose qui n'est pas forcément heureux et. Aujourd'hui, les femmes veulent tout et en même temps, elles veulent être bien et elles veulent être à l'aise, elles veulent être confortables, elles veulent être sexy, elles veulent être elles-mêmes.
Et sans complexe, tout est possible, on peut même les imperfections. Hein.
Alors, ça dépend des cultures, hein, parce que bon, ce qui est possible à Paris ne l'est pas forcément à Dakar et on le fait à ses risques et périls ou à Abidjan aussi. Hein, donc, et dans les milieux aussi dans lesquels vous travaillez. Si vous travaillez dans une banque et que vous arrivez avec un cycliste hyper moulant, je ne sais pas si ce sera bien apprécié par la hiérarchie, même si vous êtes la patronne de la banque. Donc voilà. Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut de tout et donc on pique un petit peu de tout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que la mode, c'est complètement diversifié, c'est libéralisé, c'est démocratisé, parce que nous sommes chacun nos propres faiseurs de mode et c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'un jour, on a une silhouette qui nous plaît, le lendemain, on est influencé par ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux et tous les vêtements sportifs sont aujourd'hui en train d'être confortables, mais en même temps de rétrécir. C'est-à-dire qu'on peut les porter, mais il faut faire très attention à sa silhouette. Parce que quand on porte un crop top, c'est-à-dire un petit vêtement, un petit top assez court qui montre le ventre, mieux vaut avoir un ventre plutôt slim que ça déborde. Donc, il y a toujours ces espèces d'ambiguïtés. Vous avez des pantalons qui sont confortables, mais maintenant sur Instagram, par exemple, 80% des exercices que vous apprenez, c'est pas pour être bien, c'est pour avoir le ventre hyper plat.
Ouais.
Hein? Donc, c'est-à-dire que confort, mais tenu. Et c'est ce que Gilles disait, les femmes font de plus en plus de sport parce qu'elles se sont rendues compte aussi qu'elles veulent, ce temps qu'elles avaient un petit peu, elles voulaient prendre soin d'elles. Ouais. Soin d'elles, c'est pas seulement se maquiller, c'est aussi prendre soin de son corps
et de sa santé. Gilles Touré, quand même, j'espère que vous n'adhérez pas totalement à ce que dit Marie-Jeanne Servin-Thomas. À Abidjan, on a des formes, on les montre et il n'y a pas de problème.
Alors, on les montre pas toujours, hein, comme Marie-Jeanne disait. Aujourd'hui, de toute façon, pour tout ce qui est banque, tout ça, le problème a été réglé. Il y a les dress codes. Costume, tailleur, gris, noir, point. Après, pour le soir, on peut se permettre autre chose. Je ne suis pas vraiment d'accord parce que, comme Marie-Jeanne dit, qu'il faut des trucs qui ne sont pas près du corps. Moi, j'estime qu'une femme qui s'habille large se laisse aller derrière, en bas. Elle se laisse aller en bas, donc il faut faire attention, il ne faut pas non plus trop se coincer, se saucissonner, c'est vrai, mais il faut quand même se mettre près du corps, et ça donne envie de faire attention à sa silhouette. J'ai toujours prôné, moi, la femme très très fine, très, voilà, qui s'habille très près du corps.
Et Marine Houssou nous disait, là, il y a quelques minutes, hein, il faut faire le vide dans son vestiaire pour acheter moins, pour être plus éco-responsable. Je le disais, la Fashion Week de Dakar en décembre prochain se présente sous le signe éco-responsable. Alors, vous, en tant que créateur, Gilles Touré, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, alors que vous êtes sur le continent africain ?
De toute façon, aujourd'hui, les femmes, elles ont envie de consommer. Vous savez, avec les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qu'on voit, il y a tellement de choses qu'on a envie. Ça va très, très vite. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les gens ont envie vraiment de se restreindre au niveau de la consommation. On achète. Mais c'est vrai, comme elle a dit, on achète peut-être mal. Donc, il faut peut-être réorganiser tout ça. Mais les gens, ils se laissent aller, hein, dans tout ce qui est vêtements. Ils achètent aujourd'hui très, très près du corps. Ils achètent des très larges demain. Des fois, on a tellement de vêtements qu'on ne sait même pas quoi mettre. Alors, quand on ne sait pas quoi mettre, c'est parce qu'il y en a trop, justement. Et oui, il faut, comme Marine le dit, il faut réglementer tout ça.
Marie-Jeanne Servin-Thomas, est-ce que la question est vraiment décalée par rapport aux envies, à la situation, à la réalité du continent africain, la mode éco-responsable ?
Oui, parce qu'en Afrique, on sort beaucoup plus. On a beaucoup plus d'événements. Ici, vous pouvez, avec une petite robe noire, malheureusement, ou heureusement...
Faire tous les événements de l'année.
faire au moins 80% des événements de l'année, si elle est bien coupée, si elle vous va bien, si vous mettez une veste, un accessoire. Là-bas, c'est impossible. Vous pouvez avoir le vendredi des funérailles, il faut une tenue. Le samedi, vous avez un baptême, il faut une tenue. Le dimanche, vous êtes donc peut-être à la plage à Assini, au bord d'un barbecue, il faut une tenue. Et... Et quel que soit le milieu, en fait, hein, l'habit est quelque chose de fondamentalement. C'est un repère social, c'est un clignotant de votre état financier, c'est un clignotant aussi de votre sensibilité à la mode, au bon goût. Si vous êtes une influenceuse, vous devez aussi lancer la mode, quel que soit votre âge, hein, parce que les influenceuses ne datent pas des réseaux sociaux. Donc, et au Sénégal, c'est la même chose. C'est une torture parfois pour les femmes quand elles n'ont pas les moyens de se dire mais je ne vais pas mettre le même boubou. On m'a déjà vu avec à tel baptême, ce sont les mêmes personnes, donc c'est pas possible. Donc c'est vrai qu'en Afrique, la vie sociale est 10 fois plus importante, les apparences sont 10 fois plus importantes, et finalement la pression sociale qui fait que vous devez mettre quelque chose de plus, de différent, est une réalité. Oui. Alors qu'en Occident, on peut aller en jean tous les jours au bureau, le samedi on le lave, le lundi on le remet, et puis voilà.
On s'en sort comme ça.
Alors que le dressing en général en Afrique est complètement différent. En fait, il est vraiment.
Par ailleurs, il n'y a pas non plus de fast fashion. Il n'y a pas de fast fashion dans la même échelle. Hein.
Non,
l'Afrique est très vertueuse finalement par rapport à la composition de son dressing. D'abord parce qu'il y a la fripe,
bien sûr,
qui offre beaucoup de possibilités. C'est du vêtement d'occasion.
Bien sûr.
Et les tissus aussi qui sont faits à la juste mesure et donc ils vont pouvoir servir plus longtemps peut-être, non, Marine Oussou?
Oui, moi je pense qu'effectivement c'est différent en Afrique parce que voilà. Même le choix des tissus et des matières est beaucoup plus différent qu'ici en France, enfin en Europe, en Occident, où on va avoir beaucoup de fast fashion avec des magasins comme H&M, Zara, Mango, etc. Et c'est vrai qu'on a vu ces derniers temps que, bon, comme ils se sont fait un peu taper sur les doigts, il y a beaucoup de changements au niveau des matières. Donc on remarque que maintenant, c'est du polyester recyclé, ça va être des matières mélangées, ça va être beaucoup de lyocell, de tencel, des matières un peu plus naturelles, à cause, en fait, finalement, de tout ce qui est en train de se passer et je pense aussi de la crise sanitaire.
On le savait avant le Covid, hein, la mode est une des industries les plus polluantes au monde. Le prix des vêtements n'a cessé de baisser ces 20 dernières années. Le nombre de vêtements achetés n'a jamais été aussi élevé. Mais c'est vrai, depuis peu, il y a peut-être un effet aussi de la pandémie, ce ralentissement.
C'est ça, je pense, oui, il y a ce ralentissement, il y a cette prise de conscience. Même on le voit aujourd'hui avec des magasins, enfin des marketplaces, où il y a cette envie.
Donc des places de marché sur Internet.
C'est ça, tout ce qui est un peu Zalando et tout, pour pouvoir favoriser les achats de seconde main. Donc on va le revoir, donc voilà, vendez, achetez.
Acheter moins, mais mieux,
mieux
fait, mieux fabriqué. Gilles Touré, finalement, c'était un peu votre philosophie au départ, puisque vous êtes un créateur ivoirien haut de gamme.
Moi, je suis un créateur ivoirien haut de gamme, c'est vrai, mais en même temps, il faut dire que la facilité en Afrique, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tailleurs de quartier. Donc, autant quelques personnes vont venir chez Gilles Touré, autant d'autres personnes iront chez le tailleur d'à côté. C'est faire des vêtements pas chers, mais du tout pas chers. C'est peut-être pas la même chose, mais vous savez, il y a beaucoup de clientes aujourd'hui qui préfèrent avoir, je ne sais pas quoi, 10 tenues moyennement bien faites qu'une ou deux tenues très bien faites. Voilà. Donc il y a cette facilité-là de pouvoir s'habiller régulièrement et pas cher.
On arrive bientôt au terme de nos discussions, mais on ne peut pas se quitter sans se retourner sur le passé, parce que Marie-Jeanne Sarmat-Thomas, je ne l'ai pas encore dit, vous êtes bien sûr la rédactrice en chef du magazine Brune. Le magazine fête ses 30 ans et évidemment, on avait envie de souffler ces bougies-là avec vous, Marie-Jeanne. 30 ans et pas une ride pour le magazine Brune, grâce aux crèmes anti-rides d'ailleurs, vantées dans le magazine. 30 ans de mode, 30 ans de création sur le continent, les diasporas, les femmes.
Oui, beaucoup de choses. Et puis un constat aussi un petit peu amer, c'est que les choses n'ont pas évolué autant qu'on le voudrait pour un plus grand nombre de femmes. Il y a encore beaucoup de souffrances, beaucoup de choses négatives. Et à côté de ça, toute une génération qui est en train de nous impacter de façon extraordinaire, très très rapidement, avec des ambitions, avec des envies, avec des possibilités, avec un langage, avec tellement, tellement, tellement de choses que nous sommes ébahis, donc très, très fiers. On a envie de leur dire, surtout, regardez derrière vous, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas toutes ces chances. On essaie de faire beaucoup de choses sur l'éducation, sur la sensibilisation des femmes, parce que c'est vraiment très, très important. Mais en 30 ans, en fait, on ne les a pas vus passer.
Alors, vous avez quand même vu passer tous les grands créateurs et créatrices du continent.
Oui, mais il y en a beaucoup
Gilles
qui Touré, sont encore
c'est votre grande sœur, Marie-Jeanne, c'est quoi?
Félicitations et joyeux anniversaire à Brune, ça passe vite, dis donc, hein, 30 ans déjà,
ouais.
Tu ne rajeunis pas tout ça.
Ouais, 1991, le premier numéro de Brune qui paraissait en kiosque et qui affichait déjà l'ambition de tisser un lien entre les femmes du continent et ses diasporas jusqu'aux Antilles.
Oui, bien sûr, tout à fait. Et c'est très drôle parce que ma première couverture, il y a 30 ans, c'était une jeune femme qu'on disait avec des cheveux afro courts, qui avait un très joli sourire. Elle avait une robe en beau gaulant et... L'avant-dernière couverture de Brune, c'est une jeune femme, mais vraiment, c'était tout à fait le fruit du hasard, qui a les cheveux très courts, nappis, avec le même sourire. Elle est de Tanzanie, mais elle est à New York. Donc, il y avait une espèce de caractère international, mais c'était le même sourire, c'était la même dynamique. Et c'était la même envie de dire « Waouh, vous êtes magnifique, le monde vous appartient, prenez-le. » Donc c'est un petit peu ça le message.
C'est un beau message aux femmes qui nous écoutent.
Oui, c'est vraiment le message qu'on a voulu diffuser dans ces 30 ans. Et puis,
et des créateurs, vraiment une création incroyablement dynamique sur le continent pour sublimer les femmes noires.
Ah oui,
Gilles Touré.
Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Pour revenir sur la couverture de Marie-Jeanne, je dirais que ça montre là justement que la mode, elle est cyclique. Justement, en 30 ans, les choses reviennent. Comme il disait, que même tout le phénomène nappy, là, justement, qui il y a 30 ans était là, mais revient aujourd'hui. Les femmes ont envie d'être belles, mais en même temps, naturelles.
Ah bah c'est votre cas, Marine, aujourd'hui.
Vous êtes
nappy, natural and happy.
Yes. Non, mais ma mère a toujours prôné, justement, ma mère qui est coiffeuse, qui a son propre salon, elle a toujours voulu prôner, justement, le naturel et aider les femmes, principalement noires, effectivement, à accepter leurs cheveux, à les aimer et à les sublimer, comme je suis sublime.
Ouais, exactement. Et à avoir confiance en elle.
Avoir confiance en elle, bien évidemment.
Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 30 ans, quand une femme avait les cheveux très courts en Afrique, on disait qu'elle était coco taillée, n'est-ce pas, Gilles ?
Coco taillée, exactement.
Oui, aujourd'hui, on dit qu'elle est nappie, alors que c'est la même chose. Mais on disait qu'elle était coco taillée.
Oui, parce qu'il y a une prise de conscience, une grosse prise de conscience. Ouais. Les gens, ils ont vraiment envie de revenir en arrière, ils ont vraiment envie de prouver, de montrer, d'être fiers de l'africanité. Et pour les Africains, c'est ça, quoi. C'est prôner, justement, la couleur naturelle. Pas la couleur noire, forcément, parce qu'il y a des femmes qui sont claires de manière naturelle, elles sont africaines aussi. Hein. Donc prenez justement ce côté naturel-là, les cheveux, arrêtez de les défriser, porter du wax, même si, bon, après c'est un autre débat, on estime que le wax n'est pas forcément africain, en tout cas porter des matières africaines, et tout en restant belle. Et on s'est rendu compte que, en plus, on n'a pas besoin forcément d'être en tailleur pantalon pour être jolie, quoi.
Et puis, il y a bien sûr les tissages traditionnels. Hein. Marie-Jeanne Serbin-Thomas, vous vous êtes fait énormément l'écho. Vous êtes une passeuse de savoir aussi hein, sur ces tissages traditionnels. On en parle aussi régulièrement dans l'émission hein, des fabuleux artisans. Mais concernant la création, vous les avez tous vus grandir. Pratiquement sur le continent.
Oui, oui, oui. Ce sont tous soit des grands frères comme Pathé, des petits frères comme Gilles.
Et puis il y a des femmes aussi qui ont émergé.
Il y a beaucoup de femmes. Il y a Adama, il y en a qui sont parties, il y en a qui ont arrêté. Mais dans les années 90, il y avait une telle foison avec Chris Seydoux qui nous a quittés malheureusement. Mais il y avait une telle ébullition. Et même dans une ville comme Abidjan était la capitale de la mode où il y avait un très grand défilé de mode qui s'appelait le Cité. Il y avait des mannequins qui étaient reconnus. Maintenant, tout ça s'est un petit peu vulgarisé. Il y en a partout, donc il y en a peut-être trop. Mais
il y a des villes qui sont en compétition. Hein, Dakar, Abidjan.
Oui, voilà. tout à fait. Mais à l'époque, c'était Abidjan et c'était vraiment. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire et c'est un bonheur d'être passé par toutes ces périodes.
Et c'est un bonheur aussi de vous avoir régulièrement dans l'émission. Encore Happy Birthday, Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
Merci beaucoup.
Pour les 30 ans du magazine Brune, Marine Oussou, conseil en images, je suis sûre. Sublime et Gilles Touré, créateur ivoirien. Des rendez-vous à donner, Gilles Touré, à venir ?
Alors, des rendez-vous à venir, on prépare très très bientôt un lancement d'une... Je dois le dire ? Non, je ne dirai pas.
Oui, oui,
grosse
oui.
Surprise pour toutes les consommatrices ivoiriennes et peut-être africaines.
Bon,
voilà,
vous reviendrez.
Je suis un peu susceptible, donc du coup, j'ai peur de...
On donne la parole aux enfants dans quelques instants, la génération qui portera le monde d'ici 20 ans. Chaque mois, notre reporter Charlie Dupiot leur tend un micro et une grande question. Ça sera juste après Blinky Bill.
Hold up, been a minute.
fin d'émission, le monde des enfants. Ils parlent de tout, l'amour, le mariage, l'avenir, la peur. Charlie Dupiot leur donne la parole aujourd'hui sur le conflit, la bagarre et l'honneur. Ils sont élèves à Colombes, en région parisienne. Ils ont 10 ans. Ils sont 4 autour du micro. Clélia, Myriam, Yasmine, Nassim. Nassim, le seul garçon. Et l'honneur, ça l'inspire.
1, 2, 3. Écoutez-moi bien.
J'ai ça, un enfant.
Ah oui, d'accord.
J'ai le droit à la parole. Je vais vous parler aujourd'hui.
On discute entre nous, entre enfants.
On a des choses à vous dire.
On vous donne notre regard sur le monde.
4 milliards RFI.
Merci.
J'étais dehors avec mes potes et mon cousin, un autre pote à moi. Comme des fois, on se frappe pour rigoler. Ils ont commencé à dire, venez, on se bat, on se bat. Du coup, moi, j'ai commencé à me battre contre un autre pote à moi. Au début, on a fait des petits corps à corps. Après, il a commencé à s'énerver. Il a voulu me frapper. J'ai commencé à l'attraper.
C'est parti très loin.
Porter plainte, je sais pas moi.
Non, mais toi, t'as que à porter plainte.
Et aussi, pourquoi vous jouez à un jeu violent comme la bagarre? C'est pas logique.
Non, mais t'as que, je te dirais, les garçons, c'est comme ça.
Oui,
ça
j'avoue.
C'est mon frère, il a dit ça. Ah. Mon frère, il a dit battez-vous, on a envie de savoir c'est qui le plus fort. Du coup.
Mon frère, il montre pas du tout l'exemple. Là, il était. T'empires la situation.
C'est pas comme une arène de boxe ou je sais
oui,
pas.
Mais je sais pas, mais... rien, t'as pas de compte, c'est pas comme si c'était de la boxe ou.
Pour toi, t'es en CM2 et tu te bats avec des cinquièmes.
Je ressentais de la peur.
De la peur.
Et en même temps, de la colère. Parce que quand il y a des moments comme ça que je ressens, j'ai envie de me battre, je sais pas pourquoi. Tout le monde dit si je suis mec, du
mais
coup...
Non, mais tu peux simplement lui dire d'arrêter ou, je sais pas, tu lui dis, j'appelle quelqu'un ou... Enfin, j'appelle quelqu'un. Non, t'appelles, je sais pas, ton papa pour qu'il vienne l'arrêter, enfin, je sais pas.
Il a commencé à faire le malin.
Attends, tu dis à ton père.
Tu lui dis, oui, mais pourquoi tu fais ça? Tu dois essayer de le raisonner, pas faire la violence.
À la fin, du coup, voilà, je mets une petite patate, un petit coup de poing pour qu'il se calme.
Faut pas faire ça, hein. Tu sais que ça peut aller très loin, les histoires comme ça. Hein.
Mais la question, c'est aussi pourquoi tu t'es forcé à répondre, à te battre. Est-ce qu'il y a aussi une question d'honneur?
Lui, il m'a dit, t'es trop nul, t'es trop nul, voilà, du coup, ça m'énerve.
Du coup, il t'a un peu cherché, en fait.
Je pense que dans ta tête, ce qui s'est passé, c'est, il m'a dit de me battre, et si je me bats pas, il va penser un truc pas très gentil de moi, il va penser que
je suis nul.
Je suis nul, soit que je suis faible, etc. Donc t'avais un petit coup d'honneur et aussi dans un autre coin de ton cœur, tu t'es dit j'ai de la fierté, un truc du genre.
Un peu, oui, un peu, voilà.
Vous, les filles, vous ne vous êtes jamais battues?
Jamais.
Si, quand, moi, attendez.
Avec ma sœur.
Quand, oui, mais à part avec les frères ou sœurs, jamais de la vie. Nous, quand on se dispute, c'est on parle.
Ah, moi, je me suis battue avec la copine de ma sœur.
Une chercheur, qu'elle est plus petite que moi.
Je suis déjà battue, mais pas battue coup de poing ou coup de pied. Ou...
Voilà. C'est pas ça,
c'est l'honneur. Hein.
T'as pas besoin de prouver ton honneur, en vrai. Tu sais que déjà que t'as de l'honneur. Hein.
C'est je m'en fiche des autres. Tant que je sais qu'au fond de moi...
J'ai de la fierté, de la valeur.
La valeur, moi, je m'en fiche d'avoir... S'il y a des gens qui disent, oui, t'as pas de valeur et tout, moi, je sais qu'au fond de moi, je suis une fille gentille, j'ai de la valeur.
Je suis courageuse.
J'ai tout ce qu'il me faut pour me plaire à moi toute seule. J'ai pas besoin des autres.
Ah non,
se défendre c'est... soi-même,
j'ai
en gros.
Que... Il y a tout le temps, des gens, ils disent, ouais, j'ai de la dignité, mais j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, la dignité.
Ouais.
Tu sais, ça veut dire quoi, la définition?
J'ai entendu plein de fois dans ma vie, mais j'ai jamais... Je voulais jamais dire... Oui, j'ai peur qu'ils me disent, ah, toi, tu connais pas ça?
T'as pas de dignité, t'as pas de fierté.
Peut-être que dignité, je sais pas, peut-être ça veut dire...
Et honneur, toi, comment tu définirais ça, Nassim?
Honneur, c'est...
Ouais, même lui, il connaît pas la définition.
Non, je pense que je sais, mais je sais pas comment... Moi, avoir de l'honneur, c'est avoir de la valeur. Voilà.
Moi, j'aurais dit à sa place que moi, j'ai de la fierté, j'ai pas besoin de montrer ma force. Après, c'est une autre histoire, ça.
Je peux pas dire ça avant, parce que je sais pas qu'est-ce que ça voulait dire.
Ce qui est bien avec nos histoires, bah, on a tous compris des choses, que ce soit l'honneur, la fierté, la violence, le courage et la valeur.
Voilà, une vraie leçon de philo pour les adultes.
Hein. C'est magnifique.
Oui, c'est beau à entendre. C'est beau, très beau.
C'est magnifique parce que, en fait, ils ont une très grande maturité avec leur propre langage. Et puis, on voit qu'ils sont confrontés aussi, déjà si petits, à les aspérités de la vie qu'ils connaîtront plus grands. Non, c'est magnifique, mais. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment les filles sont peut-être plus sages, plus raisonnables et plus matures aussi que les garçons, qui donnent un petit coup de poing pour arranger les choses.
Et oui, et en face, on a une fille qui dit « je me plais à moi toute seule ».
Ah, oui.
C'est déjà bien.
Oui, exactement.
Le monde des enfants, au micro de Charlie Dupuis, ce sera d'ailleurs bientôt un podcast disponible. Et merci à l'institutrice de CM2, Audrey Pellado, de l'école Jean-Jacques Rousseau, à Colombes. Merci aussi à vous, mesdames, Marine Houssou, Marie-Jeanne Serbe, Thomas, et merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Toutes nos émissions, elles sont disponibles en podcast sur les plateformes de téléchargement. On se retrouve lundi pour 7 milliards de voisins. On parlera des oubliés du numérique, chercher du travail, payer ses factures, avoir accès à ses droits de citoyen aussi. Comment s'en sortir aujourd'hui quand on galère sur Internet, quand on galère avec les logiciels? Les voisins, les voisines, si c'est votre cas, si vous vous en sortez bien sur les réseaux sociaux, pour vous balader sur Facebook, sur Instagram, mais que le reste vous semble compliqué, et bien vous avez la parole. Il n'y a pas de honte à avoir, quelle que soit votre situation. Appelez-nous dès maintenant pour témoigner de vos difficultés. La course à l'informatique laisse beaucoup de monde sur le bord de la route. Alors on va se poser et on va se parler sur WhatsApp, bien sûr, au 33 7 64 45 51 41. Ça, vous connaissez tous. À lundi et dans quelques instants, le journal.
7 milliards de voisins. C'est fini. Les droits des